des femmes écrivains. Une chronique de Jean Mauduit sur Canal Académie.
Pour cette première chronique littéraire consacrée aux écrivains au féminin, Jean Mauduit, vous avez eu l'audace de choisir un auteur à gros tirage, Amélie Nothomb. Jean Mauduit, bonjour.
Bonjour.
Que connaît-on d'Amélie Nothomb si ce n'est les multiples facéties qui couvrent ses livres, ainsi que la fortune sonnante et trébuchante qui la caractérise ?
Je ne sais pas si c'est une audace de la choisir, j'ai décidé de le faire. En effet, pour vous parler du nouveau roman d'Amélie Nothomb, s'intitule « Ni d'Ève ni d'Adam », il a paru comme les précédents chez Albin Michel, 245 pages, c'est pas beaucoup, pour 17,90 €, ce qui met la page à un peu plus de 7 centièmes d'euros. Et comme l'auteur ne touche là-dessus que 10 à 20%, selon son degré de notoriété et de rentabilité, grand chez Amélie Nothomb, la page ne vaut guère plus que 7 à 15 millièmes d'euros. Imaginez le désastre. Je précise que je prends cette approche comptable pas du tout pour moquer Amélie, qui certes ne recule pas elle-même devant les provocations glacées du marketing, mais pour souligner le caractère ingrat du métier d'écrivain à l'ère consommationnelle. Il est vrai, comme vous l'avez dit au début, que les pages d'Amélie Nothomb se vendent à de très très nombreux exemplaires et qu'elle s'y retrouve à coup sûr.
Pour sûr. Alors, Jean Mauduit, sur un plan purement littéraire, à présent, que peut-on dire d'Amélie Nothomb ?
On peut dire que c'est un olni, c'est-à-dire un objet littéraire non identifié. Amélie Nothomb est belge, très belge même. C'est presque une métaphore de Belgique. Elle est née en réalité à Kobe, au Japon, dont elle a pendant les 5 premières années de sa vie absorbé la culture, la langue et la civilité terrifiante. Et puis, au hasard des déplacements de son ambassadeur de père, elle a bourlingué de Japon en Chine, de Chine en Amérique, de New York au Bangladesh, avant de retrouver à l'âge de 17 ans sa Belgique ancestrale et d'y subir le bizutage qu'on réserve aux étrangers, aux gens d'ailleurs, à tous ceux qui accusent une différence et que leur différence accuse. Ce qui n'empêche pas de réussir brillamment ses études de philologie romane, ce n'est pas rien, et d'être agrégée à 21 ans, c'est beaucoup. Puis elle retourne au Japon, son autre patrie, où elle voudrait s'intégrer. C'est un échec. Et la voici parisienne, par la grâce de l'écriture, qui fait d'elle, en peu d'années, un auteur tout de même de premier rang.
Et vous, Jean Mauduit, qu'en pensez-vous d'Amélie Nothomb ?
Eh bien, j'en pense beaucoup de choses. J'ai eu le privilège de voir Amélie Nothomb tomber du ciel, ciel parisien, à l'occasion de la remise de son premier trophée. C'était le prix littéraire de la Fondation Marcel Lestène-Blanchet de la vocation. Elle l'a eu pour stupeur et tremblement, l'ouvrage qui a marqué son entrée fulgurante, on peut le dire, dans la cour des grands, et qui a d'ailleurs été couronné, d'autre part, du grand prix du roman de l'Académie française. Ce qui prouve quand même qu'elle était, dès le début, marquée au sceau d'une certaine littérature, et même d'une littérature certaine. C'est d'ailleurs un petit chef-d'œuvre dans son genre, qui évoque l'univers accablant d'une grande multinationale japonaise, et ça a été une révélation pour beaucoup de lecteurs, non seulement parce que le livre était bourré d'anthologies décapantes, mais en raison de la nouveauté de la posture et du style, j'y reviendrai. Alors, quant à son dernier roman, « Ni d'Ève ni d'Adam », que j'ai entrepris d'évoquer aujourd'hui, son action se situe, une fois encore, dans ce Japon qui a vu naître l'écrivain et où il a passé les premières années décisives de sa vie. Plus je vais, plus je constate qu'on ne guérit jamais de son enfance, que l'enfance est un paradis auquel on n'échappe jamais. En l'occurrence, il s'agit ici pour Amélie Nothomb, non pas seulement, car ça compte, de retourner aux sources, mais de régler ses comptes avec le Japon de son âge adulte. Peut-être parce qu'il la déçoit par rapport à celui qu'elle a rêvé dans ses premiers mois, ses premières années. Bon, elle nous avait entraînés dans le stupeur et tremblement à travers le labyrinthe des relations professionnelles à la nippone. Elle nous conte aujourd'hui l'échec d'une aventure amoureuse. Bon, ça pourrait être banal. Eh bien, c'est riche, c'est nouveau, c'est réjouissant. Deux cultures, deux sensibilités, deux langues qui se rencontrent sans jamais se pénétrer, comme des boules de billard. Naturellement, c'est Ève qui mène le jeu, pour éclaircir le titre. Et Adam, Adam s'essouffle. Il trouve trop tard les mots qui peut-être l'auraient, j'allais dire, rédempté, sauvé. Comme quoi le langage structure le monde, et comme quoi, surtout en amour, chaque mot peut devenir une bombe. Alors Amélie, puisque c'est d'elle qu'elle parle, à l'évidence, en tout cas c'est écrit à la première personne, fait la connaissance de son partenaire en laissant dans un supermarché une petite annonce qui propose de donner des cours particuliers de français, entre guillemets, à des prix intéressants. Ben là, elle va faire des prix, effectivement. Son premier élève, qui sera d'ailleurs le seul, est un certain Rinri. Il est jeune, il est beau, il est riche, il circule pour ne rien gâter à bord d'une Mercedes blanche rutilante, et il parle le français comme un manche de pioche. Si bien que va se nouer depuis le début, entre les deux personnages, une chaîne de faux sens, de contresens, de non-sens, parfois de barbarisme, propice à toutes les ambiguïtés. Par exemple, lorsque Rinri présente Amélie à l'un de ses camarades comme étant sa maîtresse. Il veut dire naturellement son professeur. De méprise en méprise, et à travers la découverte qu'Amélie elle-même fait d'un Japon qu'elle croyait connaître et dont elle s'aperçoit qu'il est beaucoup plus mystérieux qu'elle n'en avait gardé le souvenir, beaucoup plus incompréhensible, eh bien, l'amour entre en scène. Flirt et linguistique, Saussure chez Marivaux, ou l'inverse. Entre-temps, d'ailleurs, l'élève a fait des progrès foudroyants en français et son professeur en japonais, et on l'aurait parié, ils couchent ensemble, sans protocole, sans rituel. Et puis ils sont fiancés, et puis ils vont bientôt se marier, seulement...
N'en dites pas plus, Jean Mauduit. On préserve un peu le mystère pour les lecteurs potentiels. Mais qu'en est-il du style, Amélie Nothomb ? Est-ce qu'il vous séduit, ce style ?
Oui, beaucoup. Beaucoup. Amélie Nothomb recourt en permanence à cette distanciation qu'est l'humour. Et l'humour, et cet humour-là, témoigne à la fois d'une grande politesse pour le lecteur, et d'une volonté de lui échapper pour se rendre plus mystérieuse et du coup plus désirable. Ou simplement pour brouiller une piste. Car il y a, j'en suis convaincu, un mystère. Amélie Nothomb, nous avons tous le nôtre. Celui-là est flagrant dans la mesure même où elle l'exploite, jusque dans sa promotion. Elle s'expose et se cache, et se dissimule pour mieux se montrer. On l'a vu durant ses premières années parisiennes s'affubler de chapeaux improbables, gigantesques, comme des ballons, et afficher des maquillages parfois proches du gothique. On la voit aujourd'hui sur la couverture de ce nouveau roman, en tenue de samouraï féminin, le regard glacé, les lèvres d'un rouge violent, tenant du bout des doigts un sabre qui ne laisse aucun doute sur les arrière-plans castrateurs de son œuvre, oui, sans qu'on sache très bien si c'est aux fiancés japonais ou aux hommes en général qu'elle veut couper le zizi. Mais au hasard d'un reportage belge, on découvre le visage, comment dirais-je, pur, dénudé, désarmé, d'une femme-enfant qui souffre. Qui est Amélie Nothomb finalement ? Elle avoue, dans une interview, « J'ai un ennemi en moi ». Qui donc ? Sinon elle-même, bien sûr, pour qui l'écriture est une espèce d'interminable auto-analyse. D'ailleurs, elle se trahit lorsque se prétend sur un site littéraire à une sorte de questionnaire à la Pivot et sollicitée de confesser « qu'est-ce que vous voudriez éviter le plus à votre enfant ?» Elle répond, tout bonnement, d'en arriver à se détester lui-même. ça en dit long sur ses craintes profondes. Mais de quoi a-t-elle peur? La peur, on la voit, hein, sous la maîtrise souriante de l'étudiant et de l'écrivain. Peur de se perdre, peur d'être perdu, peur d'être pas assez reconnue, pas assez folle. Et quelle douleur enfouie, inassouvie, cache-t-elle poliment à la japonaise? Faut pas oublier qu'elle est passée à l'âge de la préadolescence par cette remise en question atroce de soi-même et des frontières du réel, qu'est l'anorexie.
Alors Jean Bauduit, vous parlez là non pas du style Amélie Nothomb, mais de sa personne. C'est donc que son jeu est omniprésent dans son style, dans l'acte d'écriture, bien sûr, lui-même, mais aussi dans ses mots?
Bah, tout à fait. Et s'il ne s'agissait que d'Amélie Nothomb en tant qu'individu, son problème mériterait une sympathie profonde que on lui accorde volontiers. Mais il se trouve qu'elle fait partie de ces auteurs dont l'œuvre marque le grand retour du sujet dans la littérature d'aujourd'hui. Après des années et des années, pour ne pas dire des décennies, de néo-réalisme et de structuralisme qui effaçaient l'écrivain en tant que tel, en tant que personne, pour le remplacer par un greffier laborieux attaché à la seule relation d'une écriture minutieuse du moment qui passe, l'auteur s'autorise de nouveau à prendre comme thème du récit son aventure personnelle, son jeu précisément, pour ne pas dire son ego. Comme au temps lointain du romantisme, puisque ce sont les romantiques qui ont introduit cette dimension dans la littérature française, et dans la lignée des auteurs plus récents qui s'introspectaient avec plus ou moins de bonheur, le modèle étant évidemment à la recherche du temps perdu, un sommet inaccessible. Je ne dirais pas qu'Amélie Nothomb est Proust, non. N'empêche qu'elle domine de la tête et des épaules sa génération littéraire. Alors qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres? Sa fécondité, elle produit chaque année son roman avec la régularité d'une belle mécanique. Une bonne douzaine ont été publiées, mais elle en a écrit, elle le confesse, en tout, plus de 40. Ce qui n'est pas forcément un bon point dans cette société de consommation, ou comme on voudra, de consommation, où on a tendance à se fatiguer si vite. C'est oublier les monstres sacrés du XIXe siècle et leur œuvre colossale. Il y a des écrivains pour qui, effectivement, le but de la vie, c'est d'écrire toujours, beaucoup, longtemps. Ben, elle en est. Avec une différence, c'est qu'à l'époque de Balzac et de Zola, puisqu'on pense à ces deux phénomènes, bien sûr, l'exposition médiatique était minime, car ce sont les médias qui usent, qui exténuent, qui jettent la nouveauté d'hier au profit de celle d'aujourd'hui, déjà dédaignée au profit, par comparaison avec celle de demain, qu'on anticipe. Et Amélie Nothomb est terriblement exposée aux médias. Remarquez qu'elle l'a bien cherché. Et cela d'autant que son œuvre, comme chez tous les écrivains de qualité, présente un caractère obsessionnel et donc répétitif, qui risquerait de lasser. Or, elle survit, en dépit de tout, et même elle surnage. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle possède au plus haut degré, vous posiez la question, j'y réponds, une qualité pratiquement disparue de notre horizon, l'impérium du style. Le style d'Amélie Nothomb est étincelant, tranchant, lumineux, toujours juste, sans fioritures. Il va à l'essentiel et il préfère la litote à l'emphase. Un style à la fois parfaitement moderne, au sens profond du mot, et qui renoue avec la haute écriture de l'âge classique.
Nous y voilà donc, Jean Bauduit, son style, son écriture.
Oui, c'est en cela qu'Amélie Nothomb est d'ores et déjà un écrivain important, malgré ses oripeaux promotionnels et malgré tout le bazar médiatique. Et c'est en cela qu'elle deviendra, peut-être, un grand écrivain. C'est tout le mal qu'on lui souhaite.
Est-ce que vous pouvez nous proposer, Jean Bauduit, quelques extraits de ce livre? Quelques pages que vous avez préférées?
Oui, volontiers. En voici une qui raconte une petite aventure parmi d'autres. Le garçon japonais s'est invité c'est la première initiative un peu coquine qu'il prend, c'est invité chez son professeur. À 19h, je vis apparaître le visage du garçon dans l'écran de l'interphone et lui ouvrit. Il arriva avec une valise flambant neuve. « Vous partez en voyage ?»« Non, non, je viens cuisiner chez vous. » Je lui montrai le logis qu'il épata moins que moi. « C'est bien, dit-il. Vous aimez la fondue suisse ?»« Oui, pourquoi ?»« Tant mieux, j'ai apporté le matériel. » Je devais peu à peu découvrir le culte que vouent les Japonais au matériel destiné à chaque action de la vie. Le matériel pour la montagne, le matériel pour la mer, le matériel pour le golf, et ce soir, le matériel pour la fondue suisse. Chez Rinri, il y avait une pièce bien rangée où des valises étaient déjà prêtes pour ces diverses opérations. Devant mes yeux fascinés, le jeune homme ouvrit la valise spécifique et je vis apparaître, disposé d'inamovible façon, un réchaud à propulsion intergalactique, un caclon anti-adhésif, un sachet de fromage en polystyrène expansé, une bouteille de vin blanc anti-gel et des croutons de pain imputrescibles. Il transféra ces choses remarquables sur la table en plexiglas. « Je commence ? » demanda-t-il. « Oui, j'ai hâte de voir ça. » Il versa le polystyrène et l'antigel dans le caclon, alluma le réchaud, qui curieusement ne décolla pas vers le ciel, et pendant que ces substances provoquaient ensemble diverses réactions chimiques, sortit de la valise des assiettes se voulant tyroliennes, de longues fourchettes et des verres à pied pour le reste du vin. Je courus chercher du coca au frigo, assurant que ça allait très bien avec la fondue suisse, et en remplit mon verre à pied. « C'est prêt, » annonça-t-il. Nous nous assîmes courageusement, face à face, et je risquai un bout de pain imputrescible au bout de la fourchette que je trempais dans le mélange. Je le retirai, me merveillai du nombre fantastique de fils qui se formèrent aussitôt. « Oui, » dit Rinri avec fierté, « ce procédé a très bien réussi les fils. » Les fils qui, comme chacun sait, sont le but véritable de la fondue suisse. Je mis l'objet en bouche et mâchai. Ça n'avait absolument aucun goût. Je compris que les Nippons adoraient manger de la fondue suisse pour le côté ludique de l'affaire et qu'ils en avaient créé une qui éliminait le seul détail fâcheux de ce plat traditionnel, sa saveur.
Vous avez un autre extrait à nous proposer ?
Là, ils sont devenus amants, et ils sont ensemble dans une excursion au cœur d'une île qui s'appelle Sado, tout un programme, vous allez voir. Je me tournai vers lui et le montrai du doigt. C'est toi. Ils viennent d'écouter du Bach. Après l'amour, il n'y avait plus de règles. Sur l'oreiller, je découvrais quelqu'un. Il me regardait très longtemps et puis disait « Quel beau tu es !» C'était de l'anglais mal traduit en français pour rien au monde. Je ne l'aurais corrigé, on ne m'avait jamais trouvé beau. Les Japonaises sont beaucoup plus belles, dis-je. C'est pas vrai. Je me réjouis de son mauvais goût. Raconte-moi les Japonaises. Il haussa les épaules, j'insistai. Il finit par dire, je ne peux pas t'expliquer. Elles m'énervent, elles ne sont pas elles-mêmes. Je ne suis peut-être pas moi-même non plus. Si, tu es là, tu existes, tu regardes. Elles se demandent tout le temps si elles plaisent. Elles ne pensent qu'à elles. La plupart des occidentales sont pareilles. Mes amis et moi, nous avons l'impression que pour ces filles, nous sommes des miroirs. Je fis mine de me mirer en lui, de me recoiffer. Il rit. Tu parles beaucoup de filles avec tes amis ? Pour beaucoup, c'est gênant. Et toi, tu parles de garçons ? Non, c'est intime. Eh bien, les filles japonaises, c'est le contraire. Avec le garçon, c'est la grande pudeur. Et puis, elles vont tout raconter à leurs amis. Les occidentales font la même chose. Pourquoi tu dis ça ? Pour défendre les japonaises, ce doit être difficile d'être une japonaise. C'est difficile aussi d'être un japonais. Sûrement. Raconte. Il se tut. Il respira. Je vis ses traits se métamorphoser. À 5 ans, comme les autres enfants, j'ai passé les tests pour entrer dans l'une des meilleures écoles primaires. Si j'avais réussi, j'aurais pu un jour aller dans l'une des meilleures universités. À 5 ans, je le savais. Mais je n'ai pas réussi. Je m'aperçus qu'il tremblait. Mes parents n'ont rien dit. Ils étaient déçus. Mon père, à 5 ans, avait réussi, lui. J'ai attendu la nuit et j'ai pleuré. Il éclata en sanglots. Je pris dans mes bras son corps tout contracté de souffrance. m'avait parlé de ces horribles sélections nippones imposées 1000 fois trop tôt à des enfants conscients de l'importance de l'enjeu. À 5 ans, j'ai su que je n'étais pas assez intelligent. C'est faux. À 5 ans, tu as su que tu n'avais pas été sélectionné. J'ai senti que mon père pensait « c'est pas grave, il est mon fils, il aura ma place ». Ma honte a commencé et n'a pas cessé. Je le serrai contre moi, murmurant des paroles de réconfort, l'assurant de son intelligence. Il pleura longtemps, puis s'endormit. J'allais contempler la nuit sur une ville où chaque année, la majorité des enfants de 5 ans apprenaient qu'ils avaient raté leur vie.
Quelle description de la société nippone.
Ouais, ouais. Et ce dernier extrait, qui est très révélateur du personnage d'Amélie. Septembre me voit aux moustiques. Mon sang devait leur plaire. Ils étaient tous sur moi. Rinri remarqua le phénomène et assura que j'étais la meilleure protection contre cette paix d'Égypte. Ma compagnie, j'agissais comme un paratonnerre. J'avais beau m'enduire de citronnelle ou d'onguent répulsif, l'attrait que j'exerçais sur eux l'emportait. Je me souviens de soirées folles où, en plus de la touffeur, j'avais à endurer ces morsures innombrables. L'alcool camphré me soulageait un peu. Très vite, je découvris la seule stratégie, l'acceptation. Accueillir les démangeaisons, ne surtout pas se gratter. À force de tolérer l'intolérable, la sensation devint gratifiante. Les démangeaisons acceptées finissaient par exalter l'âme et inoculer un bonheur héroïque. Au Japon, pour éloigner les moustiques, on brûle des katorizenko. Je n'ai jamais su de quoi se composaient ces petites spirales vertes dont la lente combustion chasse les parasites. J'en allumais aussi, ne fût-ce que pour la joliesse de ce curieux encens. Mais mon pouvoir de séduction, était tel que les moustiques ne se laissaient pas dissuader par si peu. Je recevais l'énorme charge d'amour de cette gent vrombissante, avec une résignation qui le supplice passé se muer en grâce. Le sang me chatouillait de plaisir. Il y a une volupté au fond de ce qui lancine. À la faveur de cette expérience, je compris les temples aux moustiques que j'avais vus en Inde 10 ans plus tôt. Les parois comportaient des trappes où les fidèles offraient leur dos à 1000 piqûres à la fois. Je m'étais toujours demandé comment les moustiques pouvaient ripailler dans cette promiscuité qui dépassait de loin celle de l'orgie, et aussi comment on pouvait aimer ces divinités ailées au point de se donner ainsi en pâture. Le plus fascinant restait d'imaginer le dos boursouflé suite à cette bacchanale d'insectes. Certes, je ne serais jamais allé jusqu'à susciter ce martyr. Pour autant, je découvrais qu'on pouvait s'y résigner de façon enthousiaste. Le mot « démangeaison » devenait enfin justifié. J'offrais non plus à manger, mais à démanger. Il y avait dans mon sang de quoi démanger pour un banquet de bestioles volantes. J'étais, faute de choix, un festin consentant. Mon stoïcisme en sortit renforcé. Ne pas se gratter est une grande école pour l'âme. Ce n'en était pas moins dangereux. Une nuit, le poison des moustiques m'intoxiqua à ce point le cerveau que, sans explication, je me retrouvais nu devant chez moi à 2 heures du matin. Par miracle, la ruelle était déserte et personne ne me vit. Je réintégrais mon logis dès que la conscience me revint. Être la maîtresse de 1000 insectes nippons prêtait à conséquence.
Merci beaucoup, Jean Mauduit. Merci pour cette chronique avertie. Merci pour ces lectures. Je rappelle que vous êtes auteur, que vous avez longtemps produit des émissions de télévision et que vous êtes actuellement consultant pour Médiamétrie. Merci beaucoup. Alors, la prochaine chronique portera également sur une femme écrivain.
Oui, bien sûr. Je suis voué aux femmes écrivains. Je vous proposerai volontiers d'aller faire un tour au cœur de mon siècle favori, le 17e, pour y retrouver celle qui est l'inventeur du roman moderne, Madame de Lafayette.
Alors, à très bientôt, Jean Mauduit.
Merci encore. Merci à vous.